On va démarrer tout de suite avec quatre auteurs. Alors, déjà trois monstres sacrés de la littérature d'imaginaire. Bon, Bernard Werber, évidemment, qui sur un sujet comme est-ce qu'on aime en gros le succès en France et les écrivains qui vendent, je pense que c'était évidemment l'invité qui s'imposait. Mais à côté de lui, deux auteurs aussi qui atteignent des chiffres de plus en plus importants, Pierre Bordage et Henri Leuvenbruck. Et puis, le petit dernier, Sir Cédric, qui regarde ces trois auteurs à succès, mais qui, déjà, en très peu de temps, c'est pas par hasard s'il est le coup de cœur du festival, a commencé à se gagner un lectorat fidèle, qui, s'appuyant sur le noyau dur de ceux qui le suivent depuis des années, entre autres beaucoup de jeunes, est en train de gagner un public beaucoup plus divers et beaucoup plus large. Et en tout cas, on en parlera tout à l'heure avec lui, l'idée de toucher un vaste public, loin de l'amener à dire « Ah non, moi ce que je veux, c'est m'adresser à une élite », ça lui convient très bien. J'ai pensé que pour ça, c'était intéressant de mettre à côté de ces trois auteurs de best-sellers et de romans à gros tirage et à public important, un auteur qui commence à toucher, en tout cas qui a l'ambition de toucher, tout en faisant comme nos amis des livres de qualité le public. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais maintenant vous demander de réagir à cette interrogation. Je vais commencer bien sûr par Bernard Werber. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, mais je crois que c'est particulièrement révélateur pour Bernard Werber, mais c'est vrai pour l'ensemble des écrivains d'imaginaire à des degrés moindres en termes de chiffre de vente. Mais sur la démarche, c'est la même. Je suis toujours halluciné de voir l'intérêt, la fidélité et l'affection du public qui vient écouter et lire Bernard Werber, y compris de nouveaux lecteurs qui le découvrent, et la façon dont, dans la plupart des médias, et entre autres des médias parisianistes intellectuels, ou dit-elle, il y a un refus de critiquer ses romans, même de dire on n'a pas aimé celui-là, on n'est pas d'accord, d'en parler, et de considérer un des trois ou quatre meilleurs vendeurs de livres en France comme un auteur qui mérite qu'on discute ses livres. Ça, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et ça, c'est la première question que je voudrais lui poser, c'est est-ce que ça vous surprend toujours, Bernard Werber, 20 ans après vos premiers succès ?
Non seulement ça ne me surprend pas, mais je trouve ça complètement normal, dans la mesure où tous les auteurs que j'aime ont été traités pareil, à savoir Jules Verne, même Rabelais, qui a lutté contre les couillons de la Sorbonne. Rabelais, je suis à fond dedans sur mon prochain livre. Boris Vian, tous les Romain Gary, tous les bons auteurs ont été ou méprisés ou rejetés par les médias. Donc ça devient un signe de qualité. Comme vous savez, les bons films sont forcément les films dont on dit du mal dans l'Ibé. Je dirais, les bons livres sont ceux qui ne sont pas évoqués dans les médias. Ça devient un système inversé. Et je trouve ce combat vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on est là pour lutter contre le monde de l'obscurantisme et des ténèbres, en dehors du monde gothique, mais je vais dire qu'entre l'obscurantisme et les ténèbres dans la tête. Et actuellement, le système littéraire parisien, c'est des personnes très très âgées, j'ai rien contre les personnes âgées, mais surtout, quand elles verrouillent le système et qu'elles ne lisent plus, et qu'elles se permettent d'être des arbitres des élégants, je trouve ça dommage pour la littérature en général. Et on est un système en France qui est complètement vieillot, sclérosé, qui se coopte entre personnes vieillottes et sclérosées, et qui est devenu une sorte de république bananière. Alors quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, je découvrais des choses étranges, comme le fait que les journalistes du Nouvel Obs qui écrivaient des livres faisaient des critiques sur leurs propres livres en mettant un pseudo. Donc j'ai quand même commencé à comprendre que le truc était un peu truqué, le système était truqué. Et puis au bout d'un moment, quand j'essayais de parler de mes copains, je disais « Attends, vous devriez lire ces livres et tout », ils m'ont dit « Ah non, on ne parle que de nos copains, parce qu'il y a tellement de livres, on a chacun notre réseau, on parle de notre réseau ». Donc ça fonctionne comme ça en France, c'est dommage pour les livres en général, mais c'est aussi dommage pour les lecteurs, parce qu'en plus, ils les envoient chaque année sur le livre le plus ennuyeux possible, qui s'appelle Le Goncourt, qui est illisible et qui font que les gens sont dégoûtés de la littérature. Mais ça ne regarde que moi. Je dis ça, c'est une opinion personnelle. J'ai l'impression que le système littéraire parisien ne fait la promotion que des livres qui n'ont pas d'histoire et que des livres où, en général, l'auteur ne parle que de lui-même. Donc, cette mode a été lancée par La Nouvelle Vague, et notre amie Marguerite Duras, qui a dit « Pour faire un bon roman, il n'y a pas besoin d'histoire. » J'y vais, c'est le matin, de toute façon tout le monde dort. Il n'y a pas de médias, tout ça, donc je me défoule.
Juste lâcher.
Et cette mode de la nouvelle vague littéraire, on est encore englué dedans. C'est la nouvelle vague BP de Mazout. Et on dirait qu'il n'y a aucune force pour se dégager de ça. Alors j'ai fait alliance avec le monsieur à droite, là, le diablotin Lovenbruck. On essaie de monter la ligue. C'est pas simple non plus. On cherche une manière de proposer aux lecteurs autre chose et de leur dire, écoutez, il y a plein de littérature différente et on considère que vous, lecteurs, vous êtes suffisamment intelligent pour trouver par vous-même ce qui va vous plaire sans qu'il y ait quelqu'un à la télé qui vous dise, vous devez lire ce livre ennuyeux et si vous le trouvez pas ennuyeux, c'est que c'est vous qui êtes un imbécile. Voilà, ça c'est fait.
Préciser quand même, Bernard Werber, vous parlez de la Ligue, dans ma génération, c'était la Ligue communiste révolutionnaire, ça va pas être ça, c'est quelle Ligue dont vous
c'est
parlez
la Ligue de l'imaginaire, voilà. Qui, dans laquelle il y a Henri Lovenbruck, Maxime Chatham, Patrick Bowen, Fontillez,
Eric Witzel qui est présent aux Épinal, il n'est pas dans la salle parce qu'il est quand même un peu tôt, mais
Fontillez, Eric Witzel, Olivier Descos et
Laurence Calaise, Eric Giacometti,
Laurence Calaise. Voilà, on est 10. L'idée,
c'est amusant d'ailleurs parce que
de faire bouger un peu les choses.
Ouais. Je réfléchissais justement à ce que tu étais en train de dire. Moi, je pense que au cœur du débat, les raisons pour lesquelles on a monté la Ligue. Sont au cœur du débat. Là, Bernard évoque l'aspect médiatique du problème qu'on se pose, mais en fait, je pense que tout simplement, on peut revenir même à plus profond que ça, c'est-à-dire sur le sens que nous, on donne à notre acte d'écrire. On est en droit de considérer qu'on écrit pour soi, qu'on écrit pour se faire plaisir. C'est pas trop notre idée à nous. Quand on veut se faire plaisir, je pense qu'il vaut mieux se masturber, personnellement. Que la masturbation est un vrai acte de plaisir solitaire.
C'est dimanche.
Justement, les gens qui pourraient être choqués sont à la messe. Et pour avoir longtemps pratiqué la masturbation, je ne la renie pas. Mais je pense que l'écriture, c'est autre chose. Je pense au contraire que l'écriture, c'est un acte de mouvement vers l'autre, et non pas de mouvement vers soi. Ça devient dégueulasse ce que je dis. Et le fait de
reprendrai moi ton truc de la masturbation. Si oui. Je passe à la télé, j'en parle.
Le fait de d'avoir très naturellement eu envie de créer une ligue de façon finalement très naturelle parce qu'on était dans un salon, on était ensemble, on s'amusait bien autour d'une table et on sentait bien que justement on a nous dans notre envie d'écrire. Une envie assumée et absolument pas honteuse d'être lu et non pas d'écrire pour soi. Les gens qui, à la base de ce débat, il y a cette idée que oui, quand on écrit, on a envie de vendre des livres. Point final. C'est cette seule chose-là qui est discutable. Voilà. Est-ce qu'on a envie de vendre des livres ? Oui. Est-ce qu'on n'a pas envie d'en vendre ? Non. Donc dans ce cas-là, que les gens qui, par exemple, traite les éditions Bragelonne d'industriels, que les Olivier Girard, que les Gilles Dumais, que les Actu SF, que les Cafards Cosmiques qui traitent les éditions Bragelonne d'industriels en prétendant que Bragelonne vend beaucoup de livres et que donc c'est forcément des salauds, écrivent au bas de leur livre que leur livre est gratuit et le donnent. Voilà. Et après, on pourra discuter et dire oui, c'est vrai, nous, on préfère les vendre. Parce que nous, on a des enfants, on a envie de les nourrir. Et surtout, on a aussi envie d'être lu. Quand on écrit, je vais vous dire quelque chose, même, j'ai toujours été intimement convaincu que même quand on écrit son journal intime, c'est-à-dire cette chose qui, par définition, il y a écrit intime sur le journal, on ne l'écrit pas pour soi. On l'écrit forcément pour quelqu'un. Que ce soit pour sa maman qui un jour va trouver votre journal intime en fouillant dans votre tiroir, ou que ce soit pour l'adulte que vous serez dans 20 ans et qui redécouvrira ce petit journal intime plein de poussière, l'ouvrira et se dira « Putain, c'est ça le gamin que j'étais il y a 20 ans ». Je crois qu'on n'écrit jamais pour soi. On se masturbe pour soi, mais on écrit pour les autres. Donc, à la base de tout ça, on ne peut pas débattre de l'envie d'être lu. Je crois qu'il n'y a rien de plus naturel que d'avoir envie d'être lu. Et donc... je crois qu'on peut arrêter le débat et aller manger.
Je rebondis. Bon, vous avez bien entendu qu'il y a quelques noms qui sont partis. J'ai rien entendu, mais certains sont aussi.
Attends, alors là, excuse-moi, mais.
Je parle franchement.
Ça fait 10 ans que des gens insultent à longueur de page, sous pseudonyme, des gens comme moi, des gens comme Bernard. On s'en prend plein la gueule. Les éditions Bragelonne s'en prennent plein la gueule parce qu'on a le malheur de vendre des livres. Quand Bernard dit que c'est un truc typiquement français ou européen, c'est pas vrai. Hein. C'est comme ça partout. Moi, je me souviens de Philippe K. Dick disant « Quel bonheur, quand je viens en France, on prend mes livres pour de la vraie littérature. Quand je suis aux États-Unis, je me fais insulter. » Donc, c'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est pareil.
C'est, si moins, tu vrai prends la... c'est moins vrai maintenant.
Bon, bref. On s'en prend la gueule. Donc, et Bernard, qui pourtant est l'armée de la Ligue de l'imaginaire, me dit souvent que je réagis pas assez. Mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un moment où, effectivement, quand des gens... on devrait... pouvoir dire bon, c'est pas grave, on s'en fout, on vend des livres, tant pis si des gens nous insultent. Non, merde, les gens nous insultent, ben moi je leur réponds et je vous emmerde.
En tout cas, une chose est sûre, parce que bon, mais c'est bien, je savais bien que nécessairement si on abordait cette question, ça pouvait être, que comment on dit ça, roboratif. Parmi les auteurs qui ont été cités, il y a des gens qui font du bon boulot pourtant, sauf que chez Brajol, il y a aussi d'excellents livres, comme chez les autres éditeurs. Par exemple, ici, il y a des auteurs, Sir Cédric, c'est le Pré-Auclair, Henri Levenbrück, Flammarion, et c'est Brajol aussi pour ses premiers livres. Pierre Bordage, c'est Au diable au Vauvert et La Talente. Et puis, évidemment, Albin Michel pour, on le sait, Bernard Werber. Mais il y a aussi Sylvie Lainé, qui publie des très jolies nouvelles chez ActuSF. On a aussi Wilson, qui est un écrivain de science-fiction qui s'adresse au grand public et qui disait, ceci dit, peut-être plus avec les formes, plus courtoisement, mais qui disait exactement la même chose qu'Henri Levenbrück. Moi, j'écris de la science-fiction pour être lu, pour parler aux gens. Moi, si c'est pour m'adresser à peu de gens, ça ne m'intéresse pas. Je veux être lu, je veux être compris, je veux plaire au public, je veux avoir un retour. Et je trouvais que là, on était vraiment complètement d'accord. Et je pense personnellement, et après je vais donner la parole à Pierre Bordage, je pense que dans la littérature, il y a place pour des petites maisons d'édition pointues, pour des textes, des nouvelles, par exemple, je pense à l'exemple de Sylvie Lainé, qui sont des bijoux de travail littéraire, qui ont leur public, plus restreint, mais qui ont leur public. Et quand on fait le choix de ce type de texte, on sait qu'on ne va pas toucher 100 000 personnes. C'est aussi de la littérature, c'est aussi de la qualité.
Bien sûr, mais dans ce cas-là, on ne doit pas souffrir de la cohabitation, voilà, de maisons d'édition dont l'objectif n'est pas le même.
Voilà. Tout à fait.
Le problème, c'est qu'en général, cette volonté... d'avoir une cible très très précise et de publier des livres qui auraient peu de chances d'être publiés dans des maisons d'édition qui ont d'autres volontés. Le problème, c'est que c'est très souvent ça lie à une agression, une rancœur qui moi me paraît inexplicable, que je vis depuis, tu le sais bien, ça fait j'ai créé Ozone en 92, donc ça fait maintenant 18 ans que je te connais et que tu me vois dans les salons, etc. Ça fait 18 ans que moi, j'ai toujours assumé cette volonté voilà, d'aller vers le grand nombre. Je suis passé de Ozone à Science Fiction Magazine pour aller en presse, pour aller dans les kiosques, pour le distribuer non plus à 1000 ou 1200 personnes, mais à 15 ou 20 000 personnes. Et déjà, j'étais devenu l'ennemi public numéro 1 et l'ami du grand capital. Enfin, c'était surréaliste. Quand on traite les éditions Brajlon d'industriels, il faut arrêter de déconner. Enfin, que ces gens-là prennent une bagnole et aillent chez Airbus et regardent ce que c'est qu'une industrie. Brajlon, c'est une trentaine de types maintenant qui bossent du matin jusqu'au soir en faisant les cons et en jouant à Warcraft sur leur ordinateur et qui bossent comme des artisans, quoi. Enfin, c'est pas une industrie. Et de toute manière, quand bien même ce serait une, où est le problème, quoi? Oui, bien sûr, grâce à ces gens-là, plusieurs centaines d'écrivains dans le monde gagnent leur vie en écrivant des livres magnifiques. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Enfin, voilà.
Et le projet, c'est quand même en France, je crois, et je m'en reprendrai Pierre Bordage, qui était un des premiers en France. C'est aussi pour ça que je voulais qu'il soit là ce matin. Un des premiers, d'ailleurs, ça lui a tiré aussi quelques remarques, à, dès ses premiers livres, faire des livres qui s'adressaient au grand public, et dès les premiers livres, des livres qui ont touché le grand public. Pierre Bordage, c'était un petit peu avant. Votre expérience, comment ça s'est passé, vous, quand vous avez commencé, en effet, à très vite trouver quand même des chiffres de vente qui n'étaient pas ceux de la plupart des auteurs d'imaginaire en France?
Alors, plein de choses dans tout ce que j'ai entendu tout de suite. J'ai l'impression que notre débat illustre cette tendance naturelle de l'homme à être dogmatique. Aussi bien du côté des germano-pratins, c'est-à-dire des littératures... parisianiste, on va dire, où il y a des dogmes qui sont lus. On a entendu Christine Angot dire « Ah bah, l'imagination », enfin ce genre de choses. Et il se trouve que aussi dans les littératures dites populaires, comme la science-fiction, on a aussi un esprit dogmatique très fort. On a un esprit de chapelle et d'église qui est très pénible, mais comme tous les esprits de chapelle et d'église. Évidemment que quand moi j'ai écrit mon premier livre, c'est donc « Les guerriers du silence », j'ai toujours pensé que de l'autre côté, il y avait un lecteur. Et donc, je suis un conteur, je suis un passeur d'histoires. Et il est évident que mon travail à moi, c'est d'accueillir des histoires qui passent à travers moi pour les offrir à des lecteurs. Je ne choisis pas cette chose-là, je ne la choisis pas. Et quand j'écris, j'ai une obsession, c'est que mon lecteur de l'autre côté, je n'écris pas pour moi du tout. J'applique ce vieux maxime du Tao qui dit qu'une fois l'œuvre accomplie, l'auteur s'efface, et j'essaie de m'effacer au maximum dans mon œuvre. C'est-à-dire que c'est le texte qui est important, et ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que le lecteur ne voit pas mon écriture, que mon écriture disparaisse, et qu'il voit le fond de l'eau. J'ai l'impression que les auteurs de littérature qui font du style agitent la surface de l'eau pour qu'on voit la surface, et que les auteurs dits populaires, c'est-à-dire qui racontent des histoires, font en sorte que l'eau soit complètement transparente et qu'on voit le fond des choses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on voit le fond du livre, parce que c'est pas moi qui suis intéressant, c'est le livre, le récit, si le lecteur veut bien l'accepter. Quand je suis arrivé de façon totalement innocente, je connaissais personne de la science-fiction. Peut-être Henri et le magazine qu'ils avaient à l'époque, c'était parmi les premiers que j'ai connus dans le milieu. Mon éditeur, c'était La Talente, n'avait jamais publié d'auteur français. Donc c'était une conjonction d'innocence, parce que si j'étais arrivé dans le milieu de la science-fiction tel qu'il était dans les années 90, j'aurais pas eu le droit de faire plus que 188 plages au fleuve noir. Et donc j'ai eu une chance, même si j'ai attendu assez longtemps pour pouvoir me faire publier, j'ai eu la chance de trouver les éditions de La Talente qui m'ont permis d'exister tout de suite en tant qu'auteur en publiant un grand format. C'est-à-dire qu'ils ont pris le risque de publier un grand format, 139 francs à l'époque, c'était assez cher. Et comme ça a marché, ça leur a donné raison, et même ça a donné aussi à d'autres éditeurs l'envie aussi de... on s'est dit finalement les auteurs français peuvent aussi, s'ils respectent ce sense of wonder dont font preuve les Américains en permanence, vendre autant de livres que les anglo-saxons. Après les inimitiés, ça va, ça vient, oui je me suis fait allumer aussi, j'ai été dans les razzies cette année, je suis radiable Bernard. oui j'étais radiable cette année avec toi d'ailleurs. pour mon roman Le Faux de Dieu, ouais. Et toi je sais plus.
Tu me l'apprends, hein. Je t'avoue, j'ai un petit sentiment, le chien aboie, la caravane passe. Alors je m'intéresse pas tellement à tous ces chiens qui aboient, donc ouais. Je suis même pas au courant.
Pour que notre public quand même comprenne de quoi il s'agit, alors on va pas citer.
Les pires romans francophones.
Voilà, voilà, c'est les pires romans, un prix qui récompense les soi-disant pires romans. C'est souvent d'ailleurs, même ceux qui les font disent eux-mêmes que c'est de mauvaise foi. Donc voilà. Et je crois qu'à cette tribune, on a tous eu l'honneur d'avoir soit la nomination, soit même, mais je pense que Bernard et moi, on en est très fiers, le prix.
Alors, à ce propos-là, j'ajouterais que je ne me suis pas lassé des mauvaises critiques. C'est-à-dire que je ne suis pas blindé contre les mauvaises critiques, hélas, j'y arrive pas. Henri parlait, disait, le fait de se faire incendier, ce n'est pas agréable. Le fait de faire descendre un bouquin, ce n'est pas agréable. Quand des auteurs eux-mêmes prennent le temps d'aller sur des forums pour descendre les copains, c'est encore moins acceptable. On est tous dans le même bateau. Et ce sera assez incroyable que... Et donc moi, j'ai encore du mal avec ça. Et j'essaie de me blinder, mais j'y n'y arrive pas.
Écoute, tu parlais du Tao. Moi, je te donnais un proverbe japonais qui dit « Le clou qui dépasse attire le marteau ». Alors, si tu veux pas avoir le marteau, il faut rester... Tu sais, tu fais rien, t'écris rien. Tout le monde t'aime. Hein. Ouais. C'est dès que tu fais quelque chose, en plus, quelque chose qui plaît, alors là, il faut t'excuser auprès de tout le monde. En plus, tu t'en prends plein la gueule. Le clou qui dépasse attire le marteau explique tout ce phénomène. Et ce n'est pas grave. Le pire, c'est que tu ne dépasses pas, c'est-à-dire que tu restes avec les autres, tu leur plais. À la limite, si tu plais à tous ces gens-là, c'est là où tu dois vraiment t'inquiéter, parce que ça veut dire que tu restes dans une sorte de médiocrité globale, qui est la médiocrité de ce groupe, et qui n'a aucun intérêt.
Alors, les choses étant dites avec dynamisme, on va dire. Cher Cédric, alors, voilà, vous trouvez...
Ça va être dur de rebondir là-dessus. Mais...
Voilà, la conjonction de ce débat, c'est-à-dire que d'emblée, ça m'a frappé, même quand vous étiez chez un petit éditeur, vous aviez tout de suite... Vous avez été vers le public, je vous ai vu la première année, c'était amusant. C'est mon livre, voilà, telle chose.
Je le vendais à la criée, littéralement.
Quasiment. Et bon, maintenant, évidemment, vous êtes auprès au clair, vous avez un éditeur qui a une grosse diffusion, qui met les livres en valeur. Ça va, ça facilite beaucoup les choses. Mais comment, ce qui est encore un jeune auteur, même si déjà vous commencez à être reconnu, encore une fois, le coup de cœur du festival par hasard, comment vous vous positionnez par rapport à ce qui a été un débat, en effet, qui a opposé l'imaginaire à la littérature générale en France, qui le fait encore, et qui parfois provoque des polémiques stériles, je crois qu'on peut tous le dire, parce qu'il y a des gens de qualité aussi bien dans la petite édition et les petites maisons d'édition que dans des grands groupes ou des boîtes dynamiques publiant beaucoup de livres, comme je citais le Préau Clair ou Bragelonne. Préau Clair, on publie moins grand format, gros tirage mis en place. Brajlan en publie vraiment énormément. Albin Michel, on connaît aussi. Voilà. Comment vous positionnez, Sir Cédric, par rapport à ce...
Très simplement, et en fait, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, et pour lesquelles auxquelles je souscris largement. Pour ma part, j'ai envie de simplifier encore plus les choses. C'est que, pour moi, c'est même pas que j'écris pour être lu, c'est que j'écris pour le lecteur. Enfin, j'écris pour les autres, déjà, à la base. Donc, je pense qu'à partir de là, tout découle naturellement. Je pense que quand on raconte une histoire, c'est qu'on raconte une histoire, donc on raconte à quelqu'un. Ça sert à, on peut pas écrire pour soi. C'est quelque chose que je peux même pas concevoir. Moi, j'ai grandi en lisant, je pense un peu comme tout le monde, des livres d'aventure, des Stephen King, en commençant par les Boomerang, en passant par les Stephen King, arrivant à des choses comme Clive Barker, un peu plus profondes, mais toujours aussi divertissantes, avec toujours le plaisir du lecteur au centre. Et je me suis mis à écrire petit à petit, sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, mais toujours à la base de ça, il y a l'envie de parler aux gens, de partager quelque chose. Je peux même pas imaginer qu'on puisse écrire pour soi. Je pense que c'est notre ego qui écrit, ça c'est évident, et c'est pour ça qu'on va chercher profondément des choses au niveau de l'inconscient collectif, des choses assez intéressantes. Mais l'ego, il écrit pour les autres. C'est un petit peu le paradoxe de la chose. Et le risque, c'est qu'au bout d'un moment, l'ego se rende compte de ce qu'il est en train de faire et qu'il se mette à écrire pour lui. Et du coup, ça donne la littérature actuelle blanche, germanopratine, qui à mes yeux n'a pas grand intérêt, évidemment. Au-delà de ça, moi j'ai une chance qui est que je viens pas du milieu de la science-fiction. Donc j'ai pas forcément eu droit à certains torrents de haine que vous avez pris sur la tête, les uns et les autres. Parce que c'est aussi
Sois patient, ça va venir.
Ouais. Non, mais j'ai eu la même chose, mais pas du milieu de la science-fiction. C'est pour ça que je trouve la chose intéressante à être évoquée, c'est que quand on vient d'un milieu, surtout un petit milieu, un petit ghetto divers et variés, il y a un moment donné où tout d'un coup, quand on s'en détache, dès qu'on fait quelque chose, dès l'instant où les gens se mettent à vous voir vous et pas le reste du milieu, ça déclenche une haine irrationnelle. Moi, j'ai eu droit à la même chose, mais pas du milieu science-fiction, puisque je suis pas issu de celui-là, donc le milieu de la science-fiction ne m'a pas identifié à leur propre ego, mais ça, c'est plutôt venu d'une certaine partie du milieu gothique, ou alternatif, ou métal, à cause de mon look, à cause de mes racines rock'n'roll au sens large, des personnes qui n'ont pas supporté que quelqu'un qui était comme eux tout d'un coup se mettent à faire quelque chose et avoir les gens qui mentionnent son nom et pas le leur. Donc je comprends et je comprends aussi la difficulté qu'il y a à avoir des gens qui disent beaucoup de méchanceté gratuite sans visiblement même avoir lu la moindre ligne de ce qu'on peut écrire, juste par principe. Donc voilà, mais après, pour revenir au cœur du débat, je pense qu'un auteur, on est là pour raconter des histoires, donc pour divertir les autres, donc il y a... C'est vraiment un besoin d'aller vers l'autre. Et donc, à partir de là, je vais juste finir là-dessus, c'est que ce serait même manquer de respect à notre œuvre, à ce qu'on a fait, si on n'essayait pas de le diffuser le plus largement possible, puisqu'il est là, l'œuvre d'art est là pour ça, pour être partagée. Et si on la garde pour nous, à la limite, c'est une honte. Enfin, c'est vraiment, c'est comme si on avait un enfant. C'est vraiment lui manquer de respect à notre propre travail, à sa propre valeur, quoi.
Je voudrais juste me permettre de dire deux choses pour modérer quand même nos discours à tous et me faire un peu l'avocat du diable. C'est pas parce qu'on pense ça et qu'on dit ça et que je crois qu'on est assez d'accord sur tous ces points-là que, en revanche, il y a aussi deux choses. La première chose, c'est que on tape très par système de défense, comme on a tous un petit peu fait là, on tape très facilement sur la littérature dite germanopratine. De la même manière, il y a de très très bons livres qui paraissent chez Gallimard ou chez Grasset en couverture blanche et qui sont magnifiques.
Je suis absolument fan de Marguerite Duras. Je tente de le dire aussi, mais là,
ces nouvelles courses sont extraordinaires, ces romans. Ça, c'est un autre débat.
Ouais, il y a des romans que j'ai de Marguerite Duras que j'aime bien aussi. Voilà, et mon auteur fétiche qui est Romain Gary était publié chez Gallimard, etc. Bon, bref. Donc, c'est pas antinomique, c'est-à-dire que c'est pas parce que nous on veut défendre notre volonté de faire des livres avec des images dessus qui marchent et qui racontent plein d'histoires que forcément tout le livre qui ne ressemble pas au nôtre est de la merde. Je veux dire, ce serait aussi ridicule que de dire ça, que enfin voilà, ce serait finalement avoir envers la littérature blanche l'attitude qu'on reproche la littérature blanche d'avoir envers nous. Il y a de très bons livres dans la littérature blanche. Romain Gary, c'est la littérature blanche et c'est pour moi le meilleur écrivain du XXe siècle dans notre pays. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, sur la presse, par rapport à ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est très paradoxal parce que dans un sens,
je crois qu'on souffre tous de ça. Évidemment, si on compare les chiffres de vente de Nicolas Ray, par exemple, qui a eu le prix de Flore pour un de ses romans, qui a été publié d'abord au Diable Vert, et puis voilà, bon, bref. C'est un type qui vend entre 8000 et 10 000 exemplaires. Okay. Bernard Werber, qui vend dans les 300 000 exemplaires en grand format et 1 million en poche. Si on compare le dossier de presse d'un Nicolas Ray et le dossier de presse d'un Bernard Werber, on est sidéré. C'est-à-dire qu'un Nicolas Ray a un dossier de presse comme ça chaque année, et Bernard, il a un dossier de presse comme ça chaque année. Bon, c'est sidérant, certes. Ceci dit, est-ce que la fonction de la presse, c'est de dire à des gens qui ont déjà lu Bernard Werber, vous avez raison de lire Bernard Werber ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que moi, si j'étais journaliste, j'aurais envie de faire ça ? J'en suis pas sûr. J'essaie de les défendre un peu, Bernard. Je pense que, par contre, j'aurais pas non plus envie de défendre Nicolas Ray, certes. Mais je pense qu'un journaliste, finalement, c'est quelque part logique que le rôle du journaliste, c'est de se dire, putain, il y a un auteur, si j'étais pas là, vous l'auriez raté, quoi. Et il s'appelle pas Bernard Werber, parce que Bernard Werber, vous l'avez pas raté. Si je peux me permettre, Bernard Werber, vous l'avez pas raté. Donc, il y a une explication à tout ça. Donc, c'est sûr que nous, de notre côté, dans notre ressenti, c'est super désagréable, c'est dur. Bon, mais il y a une bonne presse qui parle jamais de nous, mais qui parle d'auteurs. Voilà. Ce qui est super chiant, c'est quand, en revanche, à la télévision ou dans une certaine presse, vous voyez apparaître des gens régulièrement qui sont des gens qui ne font absolument. Je sais plus, je me rappelle plus de son nom. Il y avait une nana à un moment qui passait une blonde. Qui passait dans toutes les émissions de télé chez Ruquier, chez Ardisson, et qui ne faisait rien. C'était même pas une nana qui venait de la télé-réalité, comme parfois ça arrive, mais qui ne faisait rien. C'était elle était juste jolie. Non, pas du tout, elle faisait rien. Elle était ni comédienne, ni écrivain, je sais plus, c'est une blondasse. Bon.
Pourquoi t'en parles alors ?
Et je me disais, c'est incroyable, parce que c'est vrai que voilà, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand. Moi, je veux bien qu'on ne parle pas de mon livre, si c'est pour parler d'un bouquin qui est moins connu, qui est très bien et qui a besoin de se faire connaître. Par contre, si c'est pour parler d'une merde que tout le monde a déjà lu aussi, mais qui est tout le temps la même merde, parce que ce qui est amusant, c'est que la presse n'est pas forcément dirigée contre les gens qui vendent beaucoup, parce que tu as des auteurs qui vendent énormément et qui ont beaucoup de presse. Elle est dirigée contre une certaine littérature qui vend beaucoup. Tu vois. Et c'est là où il y a un problème. Moi, quand un journaliste parle d'un petit auteur méconnu mais qui a peut-être écrit un bon livre, ça ne me dérange pas. Je trouve ça, au contraire, je trouve qu'il fait son boulot et je trouve ça très très bien.
Bah, de toute façon, c'est un peu dans la parole à Bernard, mais c'est aussi par exemple ce qu'on fait aux Imaginales. On a à la fois Henri.
C'est pour ça qu'on est là.
On a Bernard Werber, exactement. On a Pierre Bordat. On a aussi ceux qui sont intermédiaires, c'est qui viennent de petits milieux et puis qui commencent à toucher un public comme Sir Cédric. Et puis on a aussi Justine Niogrec, personne connaissait sauf quelques spécialistes il y a encore un an, et qui a un premier roman fabuleux, mérite que vraiment on la pousse. Et je cite elle, mais j'en pourrais en citer d'autres. Donc là-dessus, je pense qu'on est complètement d'accord, et c'est exactement ce qu'on fait ici. Et on n'y voit aucune contradiction. Et c'est vrai que parfois, on entend des choses surprenantes, Bernard.
Oui, attends, je vais mettre quelques petits bémols. D'abord, j'ai signalé que, tu dis c'est normal que la presse ne me soutienne pas parce que mes livres se vendent, mais j'ai signalé une chose, c'est quand mon livre est sorti, personne n'en a parlé. Donc déjà, ils avaient un moment, il aurait pu y avoir un journaliste qui dit « Attendez, j'ai découvert un truc nouveau, je peux vous en parler ?» Il n'y en a pas eu un seul. Deuxièmement, les quelques les personnes qui ont vaguement parlé de mes livres ne les ont jamais lus. Ça, c'est un deuil. J'attends finalement, au bout de 20 ans de carrière, ma première critique d'un type qui a lu le livre. Première. Mais ça, alors, je ne l'ai jamais eu.
Là, tu touches au
mais
vrai
même pour en dire
truc,
du mal. Quoi. Même pour en dire du mal. C'est quelqu'un qui lise mon livre et qui dit « Je vais vous parler de ce qu'il y a dedans ». En général, quand j'ai des articles, c'est un phénomène d'édition qui intéresse les jeunes. Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Et autre chose, tu parlais du devoir des journalistes d'intéresser les gens vers quelque chose de nouveau. Ils fonctionnent en trou, en mouton de panurge. Ils s'intéressent tous aux mêmes choses au même moment. Mais moi, ce qui me choque le plus, évidemment, je pourrais dire à la limite, je suis servi, j'ai pas besoin de ça. Ce qui me choque le plus, c'est que ce système est pourri. Et je vais donner la preuve que le système est pourri, c'est que il y a un représentant des trois grands, Gallimard, Grasset, Le Seuil, que tu évoquais, qui est venu voir, qui m'a dit, si vous venez chez nous, donc si vous quittez Albin Michel, nous vous garantissons des articles élogieux dans Télérama, dans Le Monde, dans Le Figaro et tout, mais garantie, plus des prix littéraires prestigieux. J'ai dit, vous pouvez me le mettre dans le contrat ? Il me dit oui. Donc, c'est-à-dire, ils me vendent leur corruption. Donc ça montre bien que le système est corrompu. C'est-à-dire, si je change d'éditeur, tout d'un coup, mon statut par rapport au monde germanopractin change. Alors, si ça ne montre pas que le système est complètement... Il mérite d'être renversé, il y a une révolution à faire, évidemment.
Ce qui est intéressant, c'est que pourri. Ce que tu disais sur le fait que ils ont pas, la plupart des gens, voire que, tous, n'ont pas lu le livre, ce qui est incroyable, c'est, et moi, je veux rendre hommage, je veux pas que, sans la moindre condescendance, hein, mais à la francophonie, c'est-à-dire aux Belges, aux Suisses et aux Québécois, voilà, qui... Quand en France, on a tellement l'habitude d'être dans la presse nationale, hein, ou à la télévision, on a tellement l'habitude, nous, d'être interrogés par des journalistes qui n'ont pas lu votre livre et estiment que c'est tout à fait normal de ne pas l'avoir lu. Je vais vous donner un exemple, hein, qui est hallucinant quand même. Un jour, je fais une émission de télé avec le journaliste le plus connu de France. Je ne dirai pas son nom, mais disons qu'il a 4 initiales. Qui m'invite à une émission de télévision littéraire, je m'assieds, il se fait maquiller pendant 3 heures, et là il me regarde, il me dit bon Henri, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, m'en voulez pas, hein, mais voilà. Et là, moteur, action, monsieur Levenbruck, votre livre m'a fasciné. Je vous jure que c'est vrai.
Oui,
et là, moins, vous vous dites... Mais
oui, mais lui, au moins, il est honnête parce qu'il te le dit, parce que les autres, ils font semblant qu'ils l'ont lu.
Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Soit je lui sers la soupe, c'est-à-dire je fais croire que je veux bien croire qu'il a lu mon livre, soit je lui dis, ben, tu déconnes, tu viens de me dire que tu n'avais pas lu. Et là, vous êtes grillé à vie à la télévision. Du coup, c'est particulièrement odieux parce que le mec, dans son regard, vous voyez qu'il sourit et qu'il se dit, ah, t'es dégoûté, hein, mais bon, t'es obligé de faire croire que je l'ai lu. Voilà, bon. Et du coup, après, vous arrivez en Belgique, vous arrivez en Suisse, vous arrivez au Québec, et là, vous arrivez dans la RTBF, ou vous allez à une émission au Québec, et vous tombez face au même mec, mais alors lui, non seulement il a lu votre livre, mais il a lu tous les précédents, il a des notes partout, et il commence à vous interroger, il vous dit, mais vous avez lu mon livre? Et le journaliste vous répond, bah oui, bien sûr, sinon je pourrais pas vous interviewer. Vous dites, ah non, mais nous, chez nous, ça se passe pas comme ça, hein.
Voilà. Anne Golon m'a fait exactement, et elle me remercie d'avoir lu son livre. Mais je dis en général, je peux pas tout lire, mais quand même, j'essaie de lire plusieurs livres de mes invités. Elle avait l'air sidérée, visiblement, à Paris, elle avait pas beaucoup vu. Et ça aussi, c'est exactement la même chose qu'on voit. Non, je vais arrêter là parce que je vais dire une chose que je dois pas dire en public. J'en ai quand même parlé hier pour montrer qu'il y a des signes d'espoir. Avec une représentante d'une importante institution culturelle française. Un peu de prudence, je ne citerai pas, qui subventionne le festival. Et on a discuté de ça, très librement. Et elle m'a dit, même si moi j'aime beaucoup, disait-elle, la littérature blanche, etc., il y a quand même de belles choses en imaginaire, et il faudrait quand même qu'on commence à faire des choses pour l'imaginaire. Et donc on va en parler bientôt. Donc on sent quand même que des choses viennent. Mais dernier petit point, et c'est exactement ce que disait Henri, je voudrais quand même rendre hommage ici, entre autres à Laure Girard de Vosges Télévisions, Image Plus, qui reçoit les auteurs, fait chaque année des portraits d'auteurs qu'on verra ensuite diffusés.
Et qui a lu tous les livres.
Qui a lu les livres. Et d'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir parce que j'interviens pour que les services de presse lui envoient. Et en effet, en général, ils lui envoient. Et c'est plus que profitable.
Et j'ai été surpris puisque, effectivement, l'année dernière, elle avait lu le mien, L'Enfant des cimetières. Cette année, elle a lu De fièvre et de sang. Et m'en a parlé avant l'émission.
Elle a beaucoup aimé.
En plus. Mais ouais, et j'étais effectivement très, très agréablement surpris parce que c'est pas tout le temps le cas. Voilà.
Je pose un portrait littéraire d'une année ou une autre, accepté, franchement, c'est vraiment chouette.
Je me permets une intervention. Je vois que vient de rentrer dans la salle l'autre membre de la Ligue de l'Imaginaire dont on vous parlait tout à l'heure, Eric Witzel. Et c'est amusant parce qu'il est en train de se passer autour d'Eric Witzel quelque chose qui a un gros rapport avec ce débat. Autour de cette idée que je vous disais tout à l'heure, on écrit évidemment pour être lu et pour les autres. Eric participe en ce moment à une expérience nouvelle qui est assez intéressante. C'est les tout débuts. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être... plus étonnant que ce qui s'est ce qui s'est passé juste précédemment avec une autre industrie que celle du livre. Je vais dire le mot industrie pour faire plaisir à qui vous savez. Eric participe à My Major Company Books, c'est-à-dire que les éditions XO ont eu l'idée de reproduire avec le livre ce que le fils Goldman avait eu l'idée de faire avec le livre, avec le disque. C'est-à-dire que pour l'instant il y a 4 auteurs. Dont Eric Witzel, qui ont écrit des romans. Ces romans sont mis en ligne en partie. Les lecteurs peuvent aller lire quelques extraits du roman et se dire, tiens, si j'étais éditeur, est-ce que j'aurais envie d'éditer ce livre et de le voir publié ou pas? Si oui, je mise un peu d'argent, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros. Et si jamais on est suffisamment nombreux en France a estimé que ce livre devrait être édité, le livre va sortir aux éditions XO et je vais toucher de l'argent par rapport à la mise que j'ai mis en place. C'est super intéressant. Pourquoi ? D'abord parce que il se trouve que le livre d'Eric Wiesel est un putain de bon thriller et que j'espère qu'un jour il sera publié. Mais ensuite, c'est super intéressant parce que là, le pouvoir décisionnel de l'édition, il est entre la main des gens qui lisent. Et du coup, il se passe quelque chose. Voilà, moi, c'est une expérience que je trouve super intéressante. Donc, évidemment, je fais le petit coup de pub. Je vous invite à aller voir My Major Company Books. Mais surtout, je vous invite aussi ensuite à suivre l'histoire de cette expérience nouvelle. Parce que ça peut peut-être aussi un jour modifier la façon de penser des journalistes, la façon de penser des éditeurs. On va bien voir. Je reste assez prudent. Parce que sur l'expérience disque, j'ai été finalement assez déçu de voir que les internautes n'allaient pas forcément vers une découverte du public, mais plutôt vers quelque chose d'assez classique qu'une grande maison de disque aurait pu produire elle-même. Et j'ai envie de croire que sur le livre, ce sera différent. Parce que j'ose croire et j'ose espérer, en voyant le nombre de lectures que peuvent avoir les romans qui sont mis en ligne, que les gens, les internautes vont vraiment lire les extraits et vraiment voter ou miser. Enfin, quand vous misez 10 euros, finalement, c'est même moins cher que le prix du livre. Et pourtant, vous devenez co-éditeur du livre, donc c'est symbolique. Mais ils vont vraiment voter pour les livres qu'ils aiment.
L'adresse internet là, pour que les gens puissent voter.
MyMajorCompanyBooks.com. Ouais.
On va bientôt approcher de la fin de ce café littéraire, cet échange que j'ai trouvé intéressant parce qu'évidemment vous nous avez parlé aussi de vos expériences très concrètes et comment vous réagissez par rapport à cette situation qu'il faut quand même bousculer, qu'on a commencé ici et ailleurs, hein, on n'est pas les seuls. Je le disais dans la préface de Magiciennes et Sorciers, qu'on est très proche par exemple de ce qu'a pu faire Michel Lebris a Étonnant Voyageur, où il a ouvert les choses. D'ailleurs, Pierre Bordage y était, d'autres auteurs y sont. Voilà, après, on peut avoir des visions différentes de la littérature. Mais d'ailleurs, il est un des rares auteurs de littérature générale, et on commence à en avoir, qui viennent aux Imaginales. Il y a aussi des gens qui sont dits auteurs de littérature blanche, qui commencent à venir et s'asseoir aux mêmes tribunes que vous et nous. Et on sent quand même dans la nouvelle génération certains auteurs. Alors d'autres. Certains auteurs. Et pour terminer, je voudrais donner la parole à Pierre Bordage, tout simplement parce que je sais qu'il trouvera le moyen, vers la fin de ce café, de tracer des pistes pour la réconciliation.
C'est la mission empoisonnée, par exemple. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, se méfier d'une chose, c'est des systèmes de pensée. En tant qu'auteur, je n'ai aucun a priori sur rien. En tant que lecteur, je n'ai aucun a priori sur rien. Et c'est ce que j'essaie de garder, c'est une liberté totale à la fois en tant qu'auteur et à la fois en tant que lecteur. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut apprécier des livres de littérature générale, on peut apprécier des livres d'imaginaire, on peut écrire ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'il y a une part de tout du processus qui nous échappe complètement. Moi, je suis un auteur, je produis des textes. Ensuite, j'essaie de trouver l'éditeur qui correspond au texte que j'ai produit. Et après, ça m'échappe. Bernard a eu un succès considérable, mais c'est quelque chose qui lui échappe quand même, quelque part. Il n'a pas écrit pour avoir un succès. Il a écrit ce qu'il avait envie d'écrire, ou Henri, ou Sir Cédric. Il faut accepter, finalement, que les choses nous échappent, parce que dans le processus créatif, je pense qu'on ne peut pas tout maîtriser. Après, il y a tous les systèmes de pensée qui se mettent en place, il y a tous les dogmatismes qui arrivent, et ça c'est une tendance de l'être humain qu'on retrouve dans à peu près toutes les couches de la société. Nous, en tant que... vous avez créé la Ligue de l'Imaginaire, alors j'espère que ce ne deviendra pas une nouvelle église, surtout pas. C'est juste pour ouvrir les choses au maximum. Et je trouve ça un peu dommage que dans nos littératures à nous, qui sont des littératures qui devraient ouvrir l'esprit, on ait de telles fermetures. Donc on a aussi du boulot à faire de ce côté-là, je pense. Et je pense que la meilleure chose à faire, peut-être, pour essayer de passer tout ça, c'est d'écrire les meilleurs textes possibles. Voilà. Ma responsabilité, c'est d'écrire des textes et d'essayer de faire le mieux possible. Après.
Ben voilà une belle conclusion, écrire les meilleurs textes possibles et puis nous ouvrir, en tout cas c'est ce qu'avec ces auteurs qui sont à la tribune, que je remercie, et tous ceux qui sont invités aux Mises Imaginales, on va continuer à faire dans les années à venir, vous inquiétez pas.